Ma préférence, Irène Finkel.
Et Jean-Luc Palévaudy, bonjour.
Bonjour.
Ma préférence, le magazine culturel d'Esprit Occitanie.
Bienvenue sur Esprit Occitanie.
C'est la rentrée, je suis vraiment, vraiment contente de tous vous retrouver. Et cette année, c'est avec Jean-Luc Palévaudy que j'aurai le plaisir de vous présenter cette émission sur l'agenda culturel en Occitanie. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Irène.
Jean-Luc, je vous laisse vous présenter en quelques mots.
Écoute, ça va être très simple. Je suis, en l'occurrence, le directeur d'antenne d'Esprit Occitanie. J'organise les programmations et tout ce qui tourne autour. Et je suis également le vice-président d'Esprit Occitanie. Voilà, tout simplement Irène.
Alors, on va parler aujourd'hui de théâtre, de littérature, de cinéma et bien sûr du festival de guitare à Toulouse. Alors voilà, vous connaissez le menu, c'est ma préférence et c'est parti pour une heure. Alors tout de suite, on va commencer avec notre chroniqueuse comédienne Chloé Cardino, que vous avez l'habitude d'entendre dans cette émission, qui va nous faire part de l'agenda du théâtre pour cette année à Toulouse. Alors exceptionnellement, on ne l'aura pas avec nous sur le plateau, mais en duplex. Bonjour Chloé, est-ce que vous m'entendez ?
Bonjour tout le monde.
Oh, que ça me fait plaisir de vous retrouver, tout va bien ?
Ah oui, ça fait du bien, oui. Ça va et vous ?
Oui, très très bien. Alors Chloé, qu'est-ce que vous nous proposez pour cette année 2021 au théâtre ?
Ah là là, plein de choses. Ça reprend doucement mais sûrement, donc on est super heureux. Et alors j'ai dû faire un choix parce qu'il y a vraiment plein de théâtres qui ont réouvert leurs portes et qui
et c'est tant mieux.
Plein de choses différentes. Alors nous déjà on reprend le fil à plomb à réouvrir ses portes bien sûr et on reprend avec notre compagnie Le Grand e-Théâtre dès ce soir même. Alors dans un exercice sur le monde de l'entreprise et ses travers.
Là, je pense qu'il y a beaucoup à dire, effectivement, mais c'est quelque chose de drôle.
Oui, bah alors c'est de l'improvisation, c'est la compagnie Le Grand e-Théâtre qui sera pratiquement au complet sur scène
oui.
Ce soir. Et après, ils vont jouer d'autres pièces dans la semaine, jeudi, vendredi et samedi. Ce sera Bathroom, c'est un autre spectacle. Mais ce soir, c'est Masterclass Heroes et c'est l'issue d'un stage qu'on est en train de faire. Avec deux intervenants de la compagnie Les Points Sensibles qui viennent de Lyon et Rennes pour nous apprendre tout ça. Et ce sera sur le monde du travail. On est des employés dans une boîte de télécommunications. Et puis on va prendre en otage le patron à force de ne plus en pouvoir.
Quelle bonne idée. Alors on n'a qu'une date sur ce spectacle,
oui, non,
précisément.
Oui, alors après c'est Bathroom, la suite avec le Grand I. En fait, chaque mois, il y aura... Chaque mois, en octobre aussi, novembre et décembre, ils auront une semaine au fil à plomb, en fin de mois en général, avec la présentation de tous les spectacles, des différents spectacles qu'ils ont. Alors après, cette semaine, c'est Bathroom, mais en octobre, ce sera Coulisses. Je vous en reparlerai.
J'espère,
et donc, il
oui,
y a ça qui arrive. Mais celui dont je voulais vous parler vraiment encore plus en détail, c'est Cravate Club. Alors c'est la compagnie que je chéris depuis que je suis adolescente, qui s'appelle Le Grenier de Toulouse.
Ben oui, bien sûr.
Et, voilà, ils sont logés souvent à l'Escale à Tournefeuille, c'est là qu'ils jouent d'ailleurs ce nouveau spectacle, c'est une création qui s'appelle Cravate Club, avec donc Laurent Colombert et Pierre Matras. Donc ils sont deux sur scène, mis en scène par Laurent Froy. Et alors, ça commence le 22, je vais vous dire les dates exactement. Je vais d'abord vous donner le pitch, parce que ça va bien donner envie. Moi, je pense aller le voir la semaine prochaine. C'est deux meilleurs amis, deux collègues aussi. Il y en a un des deux qui fête ses 40 ans, et lui, tout lui réussit. Il a trois petites filles adorables, une femme aimante. Tout va bien dans sa vie, il est aimé et chéri, et puis il fête ses 40 ans et son meilleur ami ne se pointe pas pour ses 40 ans en prétextant qu'il ne peut pas, sans expliquer vraiment pourquoi. Et il apprend par la suite qu'il est dans un club auquel il n'est pas convié, je crois, et on va en savoir plus après. Donc ça a l'air assez drôle, et en même temps ça traite de sujets, je pense, assez profonds. Bah, c'est un mix comme j'aime bien, moi, les pièces où il y a du profond, du léger, un peu les deux.
Oui.
Et donc ça, c'est du 22 septembre au 3 octobre, donc vous avez vraiment le temps d'aller le voir.
Tous les jours ?
À 20h30, oui, et le dimanche à 16h.
D'accord.
Je pense que c'est du mardi.
Chloé,
au... Alors
bonjour,
le 22,
c'est
le 22,
Jean-Luc.
c'est bien. C'est... Je ne sais pas quel jour on est,
Est-ce
mais je crois que ça commence
que
ce
tu
soir.
peux nous donner
On est peut-être le
également un
22.
peu des
Je pense
éléments
que c'est
plus précis par
du
rapport
mardi au
au
samedi
lieu
ou du
où se
mercredi au
passe
samedi,
ce
oui. Il faut aller
spectacle?
vérifier quand même. Et il y a un bord de scène le 23. Donc je crois que ça c'est jeudi. Demain peut-être, si je ne me trompe pas. Un bord de scène pendant lequel on pourra parler avec les comédiens, poser des questions, avec la metteuse en scène aussi.
Oui.
Et ça, c'est voilà, place de la mairie à Tournefeuille, l'Escale, Cravate Club.
OK.
Et après, pour la dernière petite chose dont je pourrais vous parler, c'est pour les enfants. Un petit spectacle. Qui va se jouer dans une péniche, c'est gratuit, c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que vous ne savez pas quoi faire dimanche à 14h30, donc ce dimanche qui arrive, c'est un spectacle qui s'appelle « Il était une fois, où, qui et quoi ?». C'est un spectacle improvisé, hein. Je parle beaucoup d'improvisation aujourd'hui, je changerai la prochaine fois.
Toujours d'ailleurs,
oui,
Chloé.
J'adore, je suis assez fan d'improvisation. Mais la prochaine fois, je vous ferai découvrir des trucs peut-être un peu plus classiques.
Mais pour en finir avec le spectacle sur la péniche ce dimanche, ce n'est
oui.
Alors j'ai pas entendu ou vous n'avez pas donné l'horaire.
Oui, c'est à 14h30 ce dimanche et la péniche c'est Port de l'Embouchure.
Oui.
C'est la péniche Nougaro.
Oui, d'accord.
Appelle, okay. Voilà.
Absolument.
Et c'est donc un spectacle improvisé pour les enfants avec trois univers qu'on va leur proposer. L'univers des cow-boys et des indiens, des princesses et des chevaliers et des pirates et des corsaires. Ils vont choisir ça. Ensuite, ils vont choisir, une fois qu'ils auront l'univers qu'ils ont choisi, ils vont choisir d'autres choses. Et ensuite, la pièce commence avec, bien sûr, leur aide, leur participation. C'est très participatif. Et pour
donc,
les enfants, à partir de 3-4 ans...
Que plaire aux enfants,
ans,
bien sûr.
Oui, voilà, 3-4 ans, on s'adapte en fonction de l'âge. Comme c'est de l'improvisation, les comédiens sont habitués à faire en fonction de l'âge des enfants. Et jusqu'à 8-10 ans, ça dépend de l'enfant. Mais c'est très interactif et en général, les parents ne s'ennuient pas non plus.
Bon,
et c'est gratuit.
J'espère que les parents ont entendu, mais que ce dimanche par contre.
Oui, uniquement ce dimanche. Ouais. C'est la seule pièce qui vraiment va se jouer pendant jusqu'au 2 octobre, c'est Cravate Club dont je vous ai parlé.
Oui.
Et puis après, la semaine du Grand I au fil à plomb qui sera chaque mois. Donc à aller voir sur le site du fil à plomb pour regarder ce qu'il propose, mais je vous en reparlerai aussi.
Merci Chloé. On se retrouve très très vite pour la prochaine Ma Préférence en espérant
oui, merci à
que
vous.
Ce jour-là, on vous aura
là,
sur le plateau.
Ah oui, avec plaisir.
Merci, à très vite, au revoir.
Au revoir, bonne fin d'émission.
Merci Chloé. Avec cette rentrée, il faut vraiment retourner au théâtre parce qu'on a vraiment de jolis spectacles, on a plein de choses intéressantes, comme nous l'a dit Chloé, et c'est important de reprendre, j'allais dire une vie normale, mais de reprendre la culture, de pouvoir et aller au théâtre, et au cinéma, on le verra tout à l'heure, il y a tellement de choses intéressantes à voir.
Ce qu'on peut dire à Irène aussi, en écoutant Chloé, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de choses qui sont organisées à Toulouse, mais étant écouté en dehors des frontières de la métropole, on invite tous nos auditeurs qui sont à la marge au niveau de la région de pouvoir venir justement à Toulouse pour découvrir ces spectacles.
Oui, vous avez raison, c'est tout le monde est concerné, de toute façon. Pour cette première émission de Ma Préférence, on n'aura pas un invité exceptionnellement en duplex, mais je vous propose d'écouter l'interview réalisée il y a quelques jours à Montauban par Jacques Lavergne, interview de Monsieur François-Henri Soulier, qui nous présentait son livre Magnifica. Je vais vous laisser écouter cette interview. Et je peux vous dire d'ores et déjà que François-Henri Soulier sera le premier invité de la saison Ainsi va la vie la semaine prochaine. Je me fais une joie de recevoir cet auteur. Je vous laisse écouter son interview réalisée par Jacques Lavergne.
François-Henri Soulier, bonsoir. Alors nous sommes à Montauban, très précisément chez vous. Nous venons du Théâtre Olympe de Gouges, où vous avez signé et où vous nous avez présenté, même en musique, avec un instrument dont le nom ne me revient plus, mais que vous nous donnerez peut-être tout à l'heure. Vous nous avez présenté Le Petit Dernier. Alors, on connaissait Angélus. Il a un petit frère, enfin un gros frère d'ailleurs, hein, parce petit. Que voilà, il a 500 pages.
Le petit un peu joufflu, oui, voilà, c'est la suite, enfin la suite. 12 ans après, c'est Magnificat, la suite d'Angélus, où on retrouve certains des personnages du premier épisode, du premier tome plutôt. D'autres sont morts, évidemment, à 12 ans, beaucoup de choses se passent, et les enfants grandissent, sont devenus des hommes. Et l'idée était, au travers de ce roman, surtout de rendre hommage à une très grande femme, pour moi une magnifique figure du Moyen-Âge, très injustement oubliée. Aliénor d'Aquitaine a pris sa place, alors qu'elle, et à mon avis, lui est 100 fois supérieure, c'est Ermengarde de Narbonne, la vicomtesse qui a dirigé le comté pendant près de 50 ans, avec une inventivité, une créativité, une force, une puissance que beaucoup d'hommes pourraient lui envier, doublée d'un sens profond de l'art, de la beauté, du chant, de la musique et un amour des troubadours qu'elle a porté au sommet de son époque.
Alors on est à quelle époque très précisément ?
1177, la fin du XIIe siècle donc. Une époque où va naître le capitalisme, c'est-à-dire va naître la monétarisation de la société, où les marchands vont prendre de plus en plus de poids et où on va commencer à quitter l'esprit au profit de la matière, donc à créer une société fondée sur les biens matériels et la jouissance terrestre.
C'est un livre qui est sorti dans la même collection, 10-18, je crois que j'ai vu votre éditrice tout à l'heure. Alors si elle est là, elle nous dira quelques mots, il faut que je la retrouve parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Vous avez mis combien de temps pour écrire ce roman qui est assez épais ? Les recherches peut-être avaient été faites ou en grande partie dans le premier.
Oui, oui, mais pas seulement. Là, il a fallu que je plonge plus au cœur de la politique, ce qui était très compliqué parce que la géopolitique de l'époque ne ressemble en rien à la nôtre, donc j'ai passé beaucoup plus de temps à me documenter qu'à écrire. Par chance, je suis un type qui écrit assez vite, comme j'écris depuis l'âge de 10 ans. C'est naturel chez moi d'écrire. C'est comme, je sais pas, passer l'aspirateur ou faire la cuisine, même peut-être plus simple. Je fais mieux les phrases que je ne fais les œufs au bacon. Donc, pour moi, c'est naturel. Mais là, j'ai mis, je ne sais pas, peut-être 3 mois à écrire.
Ah, 3 mois, c'est 3 fois rien, vu la masse. Combien vous écrivez de pages par jour et combien de temps vous y consacrez ?
Alors, je suis un type assez régulier. Je me lève le matin de bonne heure, entre 6 et 7 heures. Je me rase tous les jours par respect pour la littérature française. Et puis je me mets au boulot. J'ouvre le robinet et je le ferme en général vers midi ou 1 heure. Enfin, ça dépend. Il m'arrive de m'y remettre un peu dans la journée, mais rarement. Après, la vie est trop urgente pour la sacrifier sur l'autel de l'œuvre. Je n'ai pas trop le sens de l'œuvre. J'ai plus le sens de la vie. Mais en revanche, la documentation m'a pris 6 mois. 6 mois de doc, vraiment. Parfois un peu entremêlé d'écriture, mais beaucoup de documentation pure. Comme je ne suis pas médiéviste, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas donc quelqu'un qui a les vraies bases de l'histoire, il me faut aller au fond, il me faut me documenter beaucoup.
C'est compliqué de remonter 10 siècles en arrière ? Parce qu'il faut se mettre, il y a un décor bien évidemment, mais il y a un esprit. Il faut retrouver l'esprit.
Oui, oui, vraiment. Surtout pour quelqu'un comme moi qui suis un homme sans Dieu. Ce qui ne veut pas dire un homme sans mystère, hein, entendons-nous bien, ni sans sens du sacré, bien au contraire. Il me faut me mettre dans la peau de ces gens pour qui Dieu était un compagnon omniprésent dans tout, dans le vêtement, dans la manière de se coiffer, dans la manière de manger, dans les gestes du quotidien, dans le métier. Il n'y avait pas un geste qui n'était pas effectué sous le regard de Dieu. Voilà une pensée qui m'est totalement étrangère. Donc il faut quand même que je me mette à leur place et que j'essaie de penser le monde comme eux. C'est très prétentieux de ma part, j'essaie de m'approcher de cette sensibilité. Je la retrouve dans certains poèmes des troubadours, dans certains textes. J'ai relu le roman de la Rose de Jean Demain, j'ai relu la chanson de la Croisade, j'ai relu plein de choses pour retrouver le ton avec lequel il regardait. On a une humeur qu'on porte sur notre époque, un sentiment, ce qu'on pourrait appeler une vibration par rapport à l'époque. Il fallait retrouver la leur et oublier la mienne, la nôtre, plus exactement.
Alors, on en est au deuxième, à la deuxième saison, parce que maintenant on parle par saison, c'est pas deuxième tome. On va aller, il y en aura un troisième, et si oui, on va aller jusqu'où ?
On ira jusqu'à la fin, c'est-à-dire la fin de cette civilisation qui va être mise en coupe réglée par les barons du Nord et par le royaume de France qui va essayer de devenir la France en conquérant, en colonisant des pays qui lui étaient totalement étrangers, mais qui représentaient des sources de richesse. C'était un pays infiniment plus riche que le Sud, à tout point de vue, exactement comme nous avons fait plus tard avec les pays du Maghreb, où nous allions chercher les ressources, les produits souterrains, etc. Donc toute conquête s'effectue toujours, en général, au nom d'un idéal, en fait, au nom de la banque, au nom du profit. Et c'est ce qui se passe dans cette région que nous appelons aujourd'hui l'Occitanie et qui va être annexée par la couronne de France.
On rappelle les titres du premier et du deuxième, je vous laisse le faire.
Angélus, Magnificat, et probablement le dernier s'appellera Requiem.
Voilà, bah c'est presque un scoop, donc on va déjà lire Magnificat et puis on va attendre Requiem patiemment et avec beaucoup d'envie et de plaisir, certainement. Merci François-Henri Soulier.
Merci beaucoup, bonne lecture.
Elsa Delachère, vous représentez les éditions 18, vous êtes l'éditrice de François-Henri Soulier. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir un auteur comme François-Henri Soulier dans l'écurie ?
Alors c'est extrêmement agréable puisque c'est un auteur avec qui il est extrêmement facile de travailler. Il est souple et assez ferme pour défendre son point de vue quand il veut le défendre. Et c'est aussi un auteur qui a une grande élégance et d'écriture et aussi de dialogue. Donc en fait c'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec lui.
Vous avez fait deux livres avec lui, je pense. Hein. Angélus, Magnificat, on vient d'en parler, celui qui vient de sortir. Il y en a d'autres de prévus ?
On espère boucler cette trilogie qu'on a imaginée assez rapidement comme une trilogie et assez logiquement, il devrait pouvoir boucler avec un dernier chapitre. Ouais.
Chapitre ou plutôt un dernier tome ?
Tome, mais bon, disons, oui, ça va être... En plus, il a une vraie éloquence, donc il sait se poser dans un texte et il sait prendre le temps. Donc oui, ça, c'est pas des petits textes, ouais, c'est vrai.
Alors vous avez fabriqué, entre guillemets, ces deux livres assez rapidement parce qu'ils se suivent de très près.
Absolument, oui, ça c'est sûr, mais c'est parce qu'en fait on a constaté quand même un vrai emballement autour d'Angélus, une vraie générosité et une vraie appétence à parler du livre comme François-Henri sait le faire. Et donc très vite on s'est dit, mais oui, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et puis en fait il a enchaîné très vite, lui aussi dans son écriture, dans sa mise en place, et le retravail n'a pas été si long. Et tout a été vraiment très fluide en fait, pour des années commercialement plus compliquées en librairie. Et finalement, quand tout a repris, tout s'est hyper bien enchaîné. Ouais.
Alors moi qui suis un familier et un amoureux de votre collection 10-18, Grand Détective, c'est la première fois que j'en vois un aussi gros, enfin deux maintenant aussi gros. Les autres sont quand même beaucoup plus modestes.
Absolument, oui. Et puis on a créé ce format aussi de semi-poche pour rendre justice aux auteurs français qu'on essaie de faire émerger comme François-Henri, parce qu'en plus le texte était particulièrement long, donc ça s'y prêtait. Et oui, c'est vrai que c'est des textes très paginés. On n'en a pas des aussi gros, pas tous les jours, non, c'est vrai, ça c'est vrai.
Merci Elsa, merci du beau travail que vous faites et de vous nous régaler très souvent avec ces livres. Donc je rappelle, 10-18, Grand Détective, il faut absolument les découvrir, cette collection. Il y a des véritables pépites et François-Henri est une de celles-ci.
Merci beaucoup.
Pour cette première pause musicale, je vous propose de rendre quand même hommage à Julos Bocarne qui est décédé le 18 septembre, donc il y a quelques jours, à l'âge de 85 ans. Et pour mieux parler encore de lui, je vais laisser Claude Nougaro nous chanter un des morceaux qui m'a toujours très très ému chez Julos Bocarne.
Extrait de la lettre que Julos Bocarne écrivit dans la nuit du 2 au 3 février 1975, après la mort de sa femme assassinée par un homme devenu fou. Ami bien-aimé, ma loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné 9 coups de poignard dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la persuasion. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je suis maintenant très loin au fond du panier des tristesses. On doit manger chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller en paradis. Ah, comme j'aimerais qu'il y ait un paradis. Comme ce serait doux les retrouvailles. En attendant, à vous autres, mes amis de l'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers.
Merci Jean-Luc, merci beaucoup pour le choix de cette chanson. D'abord, toujours le plaisir d'écouter Claude Nougaro. Et puis, c'est un très, très bel hommage. Merci. Alors, je vous propose de retrouver en duplex Pascal Sabatier qui va nous faire un petit mixte, je suppose, de cette rentrée littéraire, puisque Pascal, comme vous le savez, pour les auditeurs qui ont l'habitude d'écouter cette émission, la personne qui nous présente la littérature. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Comment
bonjour
ça va?
Bonjour à tous les auditeurs. Ça va? Attendez, je vais retirer mon masque parce qu'ici on est obligé d'avoir le masque. Je reçois du public donc je me couvre.
Mais oui, c'est normal.
Bon, ben écoutez, je vais vous parler un petit peu de cette rentrée littéraire.
Oui.
Quelques romans qui ont retenu mon attention, que j'ai bien aimé, pour un beaucoup aimé même.
Alors, juste une première question, Pascal, avant que vous commenciez. Est-ce que avec ces histoires de Covid, on a une rentrée littéraire similaire aux autres, ou est-ce que justement il y a beaucoup plus de livres présentés parce que peut-être que d'autres personnes se sont mis à écrire et présentent aujourd'hui leur nouveau livre avec le Covid, on a peut-être eu des auteurs qui se sont découverts.
Non, honnêtement, je pense pas. Il y a même moins de premiers romans qu'il y en a eu les autres années.
Ah mince.
Ce qui est un peu étrange, il y a eu quand même 521 romans qui sont sortis, donc je vous fais pas un dessin pour vous expliquer le travail qu'on a eu.
Oui, j'imagine, oui.
Pour se dépatouiller dans tout ça. Ils sont pas. Moi, j'avais peur qu'ils soient un peu orientés Covid, entre guillemets,
oui.
Au niveau des sujets. Pour ce que j'ai lu, pour l'instant, c'est pas le cas.
Bon.
Le thème principal cette année, je pense que c'est le père. Il y en a beaucoup qui sont revenus sur leur père, Amélie Nothomb. Bon, je ne l'ai pas encore lu, mais elle parle de son papa. Sœur Chalandon, celui-là je l'ai lu par contre, je pense que c'est moins rigolo. Il parle de son père aussi.
Donc on est sur un retour aux sources.
On est un peu sur un retour aux sources, oui. Je ne sais pas si le Covid y est pour quelque chose.
Oui.
Mais bon, c'est vrai que c'est un peu. Je ne les ai pas tous en tête, mais il y a 4 ou 5 romans qui sont sur ce thème-là. Et donc moi je vais vous parler du Sœur Chalandon par exemple, qui a retenu mon attention.
Oui.
Ça s'appelle Enfant de salaud. Et. Ça raconte, enfin c'est plus un récit qu'un roman, parce que ça raconte l'histoire de son père. Et comment, en tant que journaliste à Libération, Sœur Chalandon, qui couvrait le procès Barbie en 87, a appris quel avait été le parcours sous l'occupation de son père.
Oui.
Parcours pas très glorieux. Son grand-père un jour lui avait dit « Pendant la guerre, ton père était du mauvais côté, c'était un salaud. » Mais il ne lui avait dit que ça. Et dans sa tête du gamin qu'il était à l'époque, ça semait le doute. Parce que son père lui avait fait des récits totalement héroïques de son comportement pendant la guerre. Et voilà qu'il apprend, parce qu'il a fait des recherches et que le résultat tombe au moment où il couvre ce procès Barbie, que en fait son père a fait un an de prison pour avoir été avec l'ennemi pendant la guerre. Quoi. Et là, il va lire petit à petit le compte rendu de l'interrogatoire de son père et il va découvrir ce qui s'était passé en réalité. Les chapitres alternent entre le procès Barbie et la description de ce qu'a fait ce père fantasque et complètement fou par certains côtés. Le procès Barbie, c'est des mois et des mois de procès, c'est des témoignages très émouvants et très éprouvants aussi, de vrais héros, pour ce coup-ci, et qui alternent avec ce personnage du père qui est lâche, qui est veule, qui n'a fait qu'une chose toute la guerre, c'est qu'il a sauvé sa peau et rien de plus. Et pour cela, il est passé d'un camp à l'autre. Ça paraît dingue. Je veux dire, on saurait pas que ça existait, on se dirait non, c'est pas un personnage comme ça, c'est pas possible. Pourtant, apparemment, c'est ce qui s'est passé. Alors je pense que c'est un roman important parce qu'il remue beaucoup de choses, il interroge beaucoup et des personnages peut-être que comme celui-ci, il y en avait d'autres. Hein. Et je pense qu'il y en avait d'autres, malheureusement.
Je fais un petit complément d'information, Pascal, sur ce livre. J'ai eu l'occasion d'écouter son auteur à la Grande Librairie, qui l'a présenté. Voilà, je voulais le dire aux auditeurs, parce que s'ils ont l'occasion de retrouver cette émission et de la regarder en replay, c'est effectivement très intéressant. C'est tout à fait ce que vous venez de dire par rapport au livre. Et voilà, c'était simplement un petit complément de regarder la Grande Librairie concernant cet auteur en replay parce que c'est très éclairant également.
Ben, je la regarderai aussi parce que je ne l'ai pas vue et c'est vrai que j'ai l'impression que même à la fin du roman, je ne sais pas trop s'il a réussi à cerner son père et à le comprendre. Quoi.
Vous aurez les réponses dans la Grande Librairie, je ne vous en dis pas plus, Pascal.
Parce que là, on a l'impression qu'il a mystifié tout le monde, un peu moins son fils, quoique. Le deuxième roman qui m'a beaucoup plu alors, ça s'appelle « La fille qu'on appelle », c'est le roman de Tanguy Viel. Et c'est l'histoire de Max, un ancien boxeur qui a eu son heure de gloire et qui, pour des raisons que vous apprendrez en lisant le roman, a un peu lâché l'affaire. Et il travaille comme chauffeur pour le maire de la ville, une petite ville de Bretagne. Alors il est divorcé, il est séparé depuis quelques années de sa fille. Elle a aujourd'hui 20 ans et elle vient le rejoindre. Mais elle n'a pas de travail et elle ne sait pas où loger. Alors Max se dit que peut-être Monsieur le maire pourrait intervenir. Le maire reçoit Laura, cette superbe jeune fille de 20 ans, et effectivement, il pourra l'aider. Bon, je ne vous en dis pas plus, vous me voyez venir. Alors un homme politique, une call girl, une histoire d'appartement. Bon, ça vous parle peut-être.
Oui, c'est très convenu, oui.
Alors je ne sais pas si la ressemblance avec les personnages existants est fortuite ou pas. Mais l'histoire l'histoire de Tanguy Viel, en fait, se lit d'une traite, et c'est très agréable à lire, c'est extrêmement bien écrit et bien construit, puis ça parle de ces gens qui ont tous les droits, d'une réputation qui peut vous décrédibiliser, et de la notion de consentement, de la précarité qui autorise tous les abus, enfin bref, des sujets qu'on connaît trop bien, hélas. Ça, c'était mon premier coup de cœur.
Alors, c'est quelle édition ?
Je crois qu'il est à l'Olivier, au Mercure de France, peut-être. Je ne sais plus.
Bon, à vérifier. À vérifier pour l'éditeur.
C'est un petit bouquin. C'est un petit livre. Il est très vite lu. Mm-hmm. Mais il est très, très intéressant et très accrocheur. Et puis, le dernier que j'ai beaucoup aimé aussi, alors c'est de quelqu'un de connu, c'est un journaliste aussi, c'est Eric Fotorino, mm-hmm. Qui dirige le 1 en ce moment et qui a créé la revue America, qui a été rédacteur en chef du Monde pendant longtemps. Et ça s'appelle Mohican. Ça se passe dans le Jura. Brun et son fils Mo s'occupent de la ferme des Soulayens. Il y a deux générations et deux façons de voir l'agriculture. Et Brun va apprendre qu'il est condamné par la maladie. Et à ce moment-là, il accepte que s'implantent sur ses terres de gigantesques éoliennes contre la vie de Mo, qui lui ne voit que la destruction des paysages qu'il a toujours connus et qu'il aime profondément. Et c'est sur ce conflit père-fils que débute ce magnifique roman, parce que c'est vraiment très beau. Et ces deux hommes racontent en réalité un siècle de paysannerie, le passage d'une agriculture millénaire à une sorte d'industrie agricole, on peut dire, en à peine 50 ans. Et l'envie pour certains, comme Mo, que cette fuite en avant et les dégâts qu'elle a provoqués s'arrêtent à un moment donné, quoi. Mmh. Alors l'écriture est vraiment très très belle, elle prend aux tripes, vraiment. Et les descriptions de cette nature que l'homme a domptée et des paysages qu'il en a fait sont vraiment très très beaux. Et puis c'est aussi un coup de gueule contre la société du profit qui a transformé les paysans en agriculteurs et la terre qui était nourricière en système productiviste. Bon, en fait, c'est surtout une très très belle plaidoirie en faveur des paysans d'hier, puisqu'il en parle. C'est une génération, des plusieurs générations de paysans, les paysans d'aujourd'hui et à travers Meaux, peut-être ceux de demain, enfin espérons. Voilà, donc j'ai beaucoup beaucoup aimé Mohican d'Éric Fotorino. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Pascal, on vous laisse retourner à vos occupations. On vous remercie et puis je vous dis à très vite pour nous présenter d'autres livres.
Voilà, on fera un peu de romans étrangers la prochaine fois. Je vais me pencher sur le Padura, le roman du Cubain Leonardo Padura qui a l'air très très bien aussi. Je vous en parlerai la prochaine fois.
Bonne lecture Pascal, à bientôt.
Merci, au revoir Irène. Au revoir.
Pour la deuxième pause musicale, c'est moi qui ai fait un choix de chansons. Alors souvent on me pose la même question, j'ai remarqué, je reçois beaucoup de messages et on me dit toujours qu'est-ce que vous aimez écouter comme chansons, quelles ont été vos premières chansons écoutées, etc. Et puis alors j'ai eu envie de... c'est un petit peu une Madeleine de Proust, j'ai eu envie de vous faire écouter une chanson que me chantait mon grand-père quand j'étais enfant, pour tout vous dire. C'est Le Petit Cordonnier de Francis Lemarque. Alors, c'est une très vieille chanson qui date du début des années 50. Je pense que c'est la première chanson que j'ai apprise par cœur. J'aime beaucoup, elle me met toujours en joie. Et je voulais partager ce moment avec vous.
Un petit cordonnier qui voulait aller danser avait fabriqué de petits souliers. Une belle est entrée qui voulait les acheter, mais le cordonnier lui a déclaré: ils seront à vous sans qu'ils vous coûtent un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Ils seront à vous sans qu'ils vous coûtent un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête, crois-tu que mon cœur s'achète, chète, avec une paire de souliers? Mais la belle accepta, elle emporta sous son bras les petits souliers pour aller danser. Cordonnier, tout réjoui, a mis ses plus beaux sapis et ses pomponnés pour la retrouver. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle lui rit au nez d'un petit air futé. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle lui rit au nez d'un petit air futé. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'attends dans la tête, tête, crois-tu que mon cœur s'achète, chète, avec une paire de souliers? Mais à peine la belle avait-elle fait trois pas que ses petits souliers furent ensorcelés. Elle se mit à tourner comme une toupie déréglée et les musiciens n'y comprenaient rien. Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin et tout épuisé se mit à pleurer. Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin et tout épuisé se mit à pleurer. Petit cordonnier, arrête, arrête, tu m'as fait tourner la tête, tête, tu ne dois pas être bête, bête, pour m'avoir ensorcelé. Petit cordonnier, arrête, arrête, que ta volonté soit faite, faite, toute ma vie, le cœur en fête, fête, dans tes bras je peux danser, gentil petit cordonnier.
Gentil petit cordonnier. Alors Jean-Luc, vous allez nous parler de Toulouse Guitare, du programme de cette année. Toulouse Guitare, c'est vrai que je vous en parle chaque année. C'est un festival à Toulouse qui me tient à cœur, qui a été mis en place par Thibaut Garcia. Thibaut Garcia est un guitariste très important, très intéressant, qui a grandi à Toulouse, qui a fait le Conservatoire de Toulouse et qui a eu il y a quelques années un prix en tant qu'interprète. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a beaucoup de talent, et c'est pour ça que je suis avec grand plaisir chaque année son festival. Alors, racontez-nous les premières dates, Jean-Luc, de ce festival et où est-ce qu'on peut se renseigner pour avoir des billets, bien entendu.
Oui, Irène, tout d'abord, ce festival, avec cette édition 2021-2022, il est bon de rappeler que ce festival est placé sous la guitare classique au cœur de Toulouse et des Toulousains. Et on peut trouver toutes les informations concernant ce festival, tout d'abord sur le site toulouseguitareattaché.fr. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires et notamment les possibilités de réservation de ces concerts. Donc, en ce qui concerne cette année 2021, deux concerts. Le premier qui aura lieu le dimanche 10 octobre à la Chapelle des Carmélites à Toulouse et qui recevra Roberto Ossel. Roberto Ossel, reconnaissable entre tous dès les premières notes, cet Argentin séduit par sa sonorité chaleureuse et son jeu déterminé. Le second concert pour cette année 2021 se déroulera le vendredi 3 décembre à la salle du Sénéchal, pardon, et c'est Zoran Dukic qui sera à l'honneur, un guitariste croate et reconnu comme l'un des artistes les plus talentueux de notre époque, à la personnalité musicale forte et audacieuse, on peut le dire. Voilà, Irène.
Oui, alors avant qu'on dise que je ne suis pas assez précise dans mes propos, quand je dis que Thibaut Garcia a reçu un prix il y a quelques années, c'était en 2019. Il a été récompensé en tant que révélation dans la catégorie soliste instrumentale aux Victoires de la musique. C'était un honneur pour Toulouse et voilà, je souhaitais le préciser.
On peut quand même rappeler, je pense qu'on l'a dit un peu rapidement, que toutes ces informations, on peut les trouver sur le site, encore une fois, toulouseguitareattaché.fr.
Oui, puis tout au long de nos émissions à venir, dans ma préférence, Jean-Luc, je suppose que vous aurez l'occasion de nous faire part des autres dates.
Tout à fait. Eh bien, rendez-vous en 2022.
Rendez-vous en 2022. On va déjà passer à la troisième pause musicale. Le choix a été fait par notre nouvelle technicienne. Alors, je suis très heureuse d'accueillir Tiffaine. Tiffaine, je vais vous laisser vous présenter et nous dire le choix de cette pause musicale.
Alors, enchantée. Bien, bonjour à tous. Moi, c'est Tiffaine, passionnée, 22 ans. Et j'aurai le grand plaisir d'être avec vous pour cette année. Et le morceau que j'ai choisi, du coup, c'est All in the Sky de M83. Alors, pour présenter un petit peu, M83, c'est un groupe d'électro français. Ils ont fait des musiques pour plusieurs bandes originales de plusieurs films. Et All in the Sky, c'est un morceau qu'ils ont fait pour le deuxième volet de la saga Divergente, qui est adapté du livre du même nom. Et c'est assez marrant parce que dans le film, autant ça prend un côté très grandiose parce que ça arrive à un moment où les personnages apprennent qu'ils sont plus les derniers représentants de la race humaine. Et en plus, quand on la prend un petit peu pour juste elle-même sans le film, il y a un côté très grandiose aussi, mais il y a un côté vraiment porteur d'espoir quand on regarde les paroles. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a parlé. Voilà. J'avais envie de vous faire écouter celle-là.
Arms to the ground, far from the rivers. Grace in our tears, high on a fever. Somebody heal me from my pain. I'm reaching closer. The stars dab the moon.
memories. Holes in the sky, pierced by the fire. Somebody tell me this is real.
Merci Tiphaine pour ce choix. J'aime toujours demander aux techniciens et techniciennes de choisir des chansons parce que ça nous fait découvrir, à nous qui sommes une génération au-dessus, des choses qu'on n'écoute pas forcément. Donc c'est toujours très intéressant. Nous voilà arrivés à l'heure de la chronique cinéma. Alors c'est moi, la chronique cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 films. Et oui, parce qu'on a une rentrée au cinéma avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de films à voir. Dans tout ce que j'ai vu, je vais vous parler de 4. Alors le premier, c'est « Serre-moi fort » de Mathieu Amalric, qui était sélection officielle au Festival de Cannes 2021. Alors c'est un synopsis minimalisme que je vais vous livrer là, parce que c'est le genre de film où on ne peut pas vraiment dévoiler l'intrigue sans raconter tout le film. Alors on dira simplement que c'est une femme. L'actrice, c'est Vicky Krieps, qui joue ici avec une infinie justesse. Et cette femme s'en va. On la voit partir de chez elle, prendre ses valises un matin, dire au revoir, embrasser son mari qui dort, embrasser ses enfants qui dorment. Et elle s'en va. Ou du moins, c'est ce qu'elle espère. Alors, c'est un film qui peut paraître confus, mais qui ne l'est absolument pas. Ou alors, qui se doit de l'être, puisque l'on partage ici l'intime des souvenirs, le présent insupportable et le futur rêvé. C'est un récit qui traite de l'absence, je pense que vous l'aurez compris, mais également du manque et du deuil. C'est un film qui est magnifique, une œuvre rare, on n'en sort pas indemne. Beaucoup, beaucoup pleurent devant ce film. Je pense que Mathieu Amalric confirme ici qu'il est un grand cinéaste, vraiment. Je vous invite à voir ce film parce que c'est un très beau film. Je, Je n'en dis pas plus parce que je veux vraiment vous laisser découvrir ce film. Alors j'ai vu dans un autre domaine, complètement un autre domaine, c'est « Debout les femmes ». Alors là, on est sur un documentaire qui n'a rien à voir. Imaginez par exemple un couple complètement improbable, François Ruffin et Bruno Bonnel. Quelque chose d'inimaginable. Ils sont complètement à l'opposé dans leurs idées. Et pourtant, ils sont unis. Ils sont unis pour faire reconnaître les invisibles dans leur statut, leurs revenus. Alors, qui sont les invisibles ? Ben, ce sont ces femmes de ménage, auxiliaires de vie, accompagnantes d'enfants en difficulté, ces femmes qui ont une dignité exceptionnelle, qui ont un cœur plus grand qu'elles. C'est vraiment un documentaire que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Alors, on le voit vraiment du début à la fin, c'est-à-dire ces parlementaires qui vont faire toute une enquête et qui vont présenter un projet de loi. Il y a également toutes ces femmes dans ce film qui sont vraiment... J'ai un très très grand respect pour ces femmes parce qu'elles ont une vie difficile et tout ce qu'elles font, elles le font avec un cœur qui est démesuré. Heureusement que ces femmes existent. Encore une fois, elles ont tout mon respect. Moi, j'ai vraiment aimé ce documentaire. Je vous invite à aller le voir parce que vous allez découvrir des choses des deux côtés, autant du niveau des politiques que du côté de ces femmes, des choses que vous ignorez très certainement. C'est un film qu'il faut aller voir à l'American Cosmo. Je souhaite également parler de la bande-annonce, parce que, pas de la bande-annonce, mais de la bande-musique. C'est Bourvil, ce chanteur populaire au grand cœur, qui a été choisi pour accompagner ce documentaire. Et effectivement, le choix me paraît tout à fait judicieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a bien plu. Alors, on ne doit pas parler que des choses qui plaisent, évidemment. Alors, j'ai vu un autre documentaire qui s'appelle « Poulet frites ». Ça, c'est un documentaire de Jean Libon et Yvan Inan, c'est les créateurs de Striptease, hein, pour ceux qui connaissent, qui avaient fait le précédent qui était « Ni juge ni soumise ». Alors là, ils reviennent au cinéma, ils ont exhumé de leur tiroir des archives en noir et blanc d'une affaire assez ancienne, qui est pleine de rebondissements, vous le verrez, parce que la pièce à conviction est une frite. Alors, c'est... Bien sûr que c'est intéressant. La juge, bon, on retrouve la juge de leur film précédent, hein, qui est Anne Gruvex. Je ne sais pas si je le prononce bien. La juge est toujours aussi cocasse. Le commissaire de police est extrêmement investi. Oui, c'est intéressant, mais je n'ai pas du tout accroché. Vous dire pourquoi, je ne sais pas. Ce n'est pas ma sensibilité. Je me suis ennuyée dans cette enquête. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ce n'est pas quelque chose qui m'a emballé. Et sur le quatrième film, alors là, je vais être dithyrambique parce que j'ai été plus qu'emballée. C'est Le Genou d'Aed, le film de Nadav Lapid que j'ai vu, que je vais retourner voir encore et encore. Et je vais... certainement vous en parler aujourd'hui pour la première fois et continuer à vous en parler souvent parce que j'ai été emballée par ce film, parce que ce film fait désormais partie de mon top 10, comme on dit. Alors c'est un film israélien, hein, donc comme je vous l'ai dit, de Nadav Lapid. C'est un débordement de colère du cinéaste, c'est la dénonciation d'un gouvernement politique qui est en inadéquation complètement avec l'art du cinéaste. C'est, comme je vous l'ai dit, un film exceptionnel à voir absolument. Il est magistralement joué, il est rythmé, il y a une bande-son étonnante où on entend du Vanessa Paradis. Alors ce film a reçu le prix du jury au Festival de Cannes, et c'est tant mieux.
J'ai eu un entretien avec Nadav Lapid que je vous laisse écouter maintenant. Alors c'est un tout petit entretien parce que c'était à glisser dans cette émission, mais j'aurais aimé pouvoir discuter avec Nadav encore et encore de ce film parce que j'ai adoré ce film, je vous le dis et je vous le redirai jusqu'à ce que vous alliez tous le voir. On écoute Nadav.
Irène Finkel, pour Ma Préférence, Radio Esprit Occitanie. Je suis avec Nadav Lapid pour son film Le Genou d'Aed. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Votre film a reçu le prix du jury au Festival de Cannes, ex aequo avec Memoria. Pouvez-vous me dire quelques mots sur cette récompense?
Et c'était un moment de joie. C'était un film qui était tourné vraiment en urgence, 18 jours de tournage, et dans un sentiment de qu'on essaye de toucher à l'essentiel. Et vous savez, c'est toujours un chemin qui n'est pas évident. Et j'espère qu'avec ce soutien du prix des Cannes, les films pourraient arriver à chaque être humain sur cette terre, parce qu'à mon avis, il parle sur chaque être humain sur la terre.
Oui, on va d'ailleurs en parler. Alors, le film, sans vraiment le dévoiler, c'est l'histoire d'un réalisateur en préparation de son prochain film qui est appelé à présenter le précédent dans un village. Alors, c'est un film colère. Pour moi, c'est un film autobiographique. Il y a ce que l'on pense et il y a ce que l'on dit. Les mots fantasmes, freudiens font écho. J'ai pensé en premier à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais c'est beaucoup plus insidieux, il me semble. En quelques mots, comment vous analyseriez votre film?
C'est très intéressant tout ce que vous venez de dire, et j'adore déjà cette analyse ou ces quelques expressions, mots-clés que vous venez d'utiliser. Je pourrais proposer, il y a plusieurs analyses possibles, moi je pourrais proposer peut-être une autre analyse, je pourrais peut-être essayer de dire que c'est un film sur quelqu'un qui, à force d'avoir raison tout le temps, se détache de l'humain à l'intérieur de lui, et à travers ces trajets en plein désert, se rend compte du fait que pour les mieux que pour les pires, il est un autre membre dans la société humaine.
Il apprend l'humilité.
Il apprend l'humilité. Il apprend la bonté. Il apprend la résignation. Il apprend peut-être les bornes de notre existence.
Alors vous parlez du désert. Moi je vais vous parler de l'eau. Parce que l'eau est très présente dans votre film, du début à la fin. Alors la définition de l'eau, c'est un liquide insipide, sans odeur, sans saveur. Absolument le contraire de votre film. L'eau, c'est également la vie, bien sûr, mais elle a un rôle de protection. Quand quelqu'un part faire un grand voyage en voiture, on arrose avec de l'eau, on arrose la voiture en signe de protection. Que pouvez-vous me dire sur cette métaphore et également quelle est l'importance pour vous de l'eau dans le film?
Je crois que l'eau dans les films sert peut-être d'une seule option dans de l'existence, dans le miracle. En plein désert, il y a une petite piscine définie comme miracle par les habitants de la région. Il la prend en photo pour sa mère qui agonise du cancer. Avant, il pisse dessus, parce que d'emblée, il méprise le miracle. Et il méprise peut-être tout le monde, sauf ma mère. Mais finalement, il la prend en photo. Et à la toute fin, il plonge là-dedans. Et c'est là où il voit la mort. J'imagine que la mort fait partie du miracle dans le film.
D'ailleurs, vous venez de dire « il ». quand vous parlez de votre personnage dans le film et vous avez dit ma mère.
Ouais. Oui, je peux dire que ce film est autant personnel autobiographique, comme bien sûr que sur mon téléphone, il y a encore la vidéo de justement de cette piscine-là que j'ai envoyée à ma mère en avril 2018, à peu près un mois avant son décès.
Voilà, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de films. On est quand même obligé toujours de choisir. Donc, il y aura encore certainement plein d'autres films dans la prochaine chronique cinéma. Voilà, l'heure de nous quitter déjà là. Et c'était une émission préparée et présentée par Jean-Luc Palévody et Irène Finkel. Je souhaite remercier nos chroniqueuses Pascal et Chloé pour leurs interventions. Également, je souhaite vraiment remercier Tiphaine qui est avec nous pour l'année. Bienvenue Tiphaine. Et puis, vous pouvez retrouver bien sûr le podcast de cette émission ainsi que tous les autres sur votre site Esprit Occitanie. Donc, c'est www.espritoccitanie.fr. Nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle émission pour l'agenda culturel en Occitanie. Et je laisse le tout dernier mot de la fin pour mon nouveau complice de l'émission. À vous, Jean-Luc.
Oui, Irène, écoutez, j'ai pris plaisir à découvrir votre talent, votre charme et toute la finesse et la sensibilité que vous avez mis dans vos interviews et dans l'ensemble de ces rubriques. Et j'espère vous dire donc à très très prochainement. Merci Irène.
Merci à tous, au revoir.